Tov, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons passer à une étape supérieure, c'est-à-dire que nous allons parler de Rosh Chodesh Sivan. Donc je vous souhaite déjà Chodesh Tov ou Mevorach. Le mois de Sivan est très spécial puisque les sages lui ont donné une définition. Et on va le voir tout de suite et on va voir quelle est la définition qui sort un petit peu de l'ordinaire de ce mois. Sivan ou Achodesh Ashlishi Beluach Hashanah Ivri. D'abord, première information, c'est que le mois de Sivan est le troisième dans l'ordre des mois qui commence par le mois de Nissan. Donc Nissan, Iyar, Sivan, troisième mois. Chodesh Zeh Meyuchas Betchunotav Apnimiyot Lesfirat Atif'eret. Ce mois, dans sa construction intérieure, est équivalent à une sphère dans l'édifice sphirotique des kabbalistes qui correspond à la troisième sphère qu'on appelle la Tif'eret. Je ne vais pas vous compliquer les choses, je vais juste vous dire que cette sphère de Tif'eret qui représente en fait l'équilibre, d'ailleurs le mot thérapie vient de cette sphira, Tif'eret, thérapia, refait, est inscrit à l'intérieur de ces lettres. Autrement dit, il s'agit là d'un moi qui est doté d'une force spéciale de redonner à l'homme l'équilibre, de redonner à la nation l'équilibre, et je dirais plus loin, de redonner au monde l'équilibre dont il a besoin. Ce n'est pas par hasard que c'est le moi où la Torah va être donnée. Et la Torah va être donnée à qui ? Au monde. À travers Israël. Israël va être le médiateur de cette Torah. Je ne parle pas du livre des lois, je parle en réalité de dévoiler la structure intérieure de ce monde, c'est-à-dire l'ADN de la création. Au moment du don de la Torah, HaKadosh Baruch Hu révèle à ce monde de quoi il est fabriqué, de quelle matière ce monde est fait. Et c'est en réalité de cela qu'il s'agit. Et si l'Éternel a choisi ce troisième mois pour réaliser ce passage entre l'infini et le fini, c'est qu'apparemment ce mois est doté d'une force, d'abord de pouvoir capter la lumière divine de l'infini et de la faire passer. Ça veut dire que ses ustensiles sont assez résistants pour recevoir cette lumière divine. Et de plus, c'est le moi qui va révéler en fait au monde sa source divine, sa source infinie, et que le monde n'est pas tout simplement une création qui est sortie de je ne sais quelle explosion. Donc il y a ici aussi des éléments extraordinaires qui sortent de l'ordinaire parce que c'est un moi, c'est un temps où nous allons entendre pour la première fois l'infini parlait aux hommes, ce qui en soi est phénoménal. Aucune nation du monde, pas même Israël, ne s'attendait à ce dialogue entre l'infini et le monde, de cette manière. Alors vous allez me dire, oui, les individus, Abraham, Yitzhak, Yaakov et d'autres personnes ont entendu ces paroles, puisqu'ils étaient prophètes. Oui, mais là il s'agit d'une nation, il s'agit de millions de personnes qui commencent maintenant à comprendre que quelque chose se passe dans le monde. C'est tellement grandiose que le Midrash nous raconte que les nations du monde avaient peur et elles sont parties voir Bilham. Bilham leur a dit, écoutez, il se passe quelque chose de très très important maintenant, c'est une nouvelle ère qui commence dans le monde. Et comment il a dit ça? Avec une phrase. Adonai oz le'amoiten. Extraordinaire. Bilham leur a dit, sachez que l'éternel, le tétragramme, est en train de donner oz. Qu'est-ce que c'est oz? Une puissance extrêmement forte. Le'amo à son peuple. Et iten, c'est pas au présent. C'est que c'est à partir de maintenant, il le donnera, sans arrêt. C'est un présent continu. Donc il y a ici quelque chose de phénoménal qui est en train de se passer Et même les nations du monde étaient sensibles à ce changement, au point d'aller voir Bilam. Bilam, c'est le prophète des nations, l'équivalent, entre guillemets, à Moshe Rabbeinu chez les nations du monde. D'accord ?
C'est-à-dire que dès qu'il a donné beaucoup, il avait dit les deux ou les trois premiers commandements ?
Non, avant. Avant, les nations du monde ont compris qu'il est en train de se passer quelque chose parce qu'il y avait des phénomènes terrestres, des tremblements de terre, des bruits, des changements naturels qui ont fait en sorte que le monde entier est rentré dans une peur. Alors, le peuple d'Israël a entendu, parce que c'est lui le vecteur, mais les nations du monde, elles, pensaient que c'était un tremblement de terre ou une destruction, un déluge. Ben d'ailleurs, c'est ce qu'elles ont dit à Bilham. Est-ce que Dieu est en train de détruire le monde comme il l'a fait dans le déluge? Les gens racontaient. Ils se racontaient entre eux, vous savez, il y a quelques centaines d'années, milliers d'années, il y a eu un déluge au début de la création du monde, peut-être que c'est maintenant. D'ailleurs, il y en a même qui ont fait des calculs, et qui se sont dit, tiens, c'est le moment où il peut y avoir un déluge dans le monde. Et c'était vrai. Ce qui prouve pas que c'était le moment du déluge, mais l'inverse, que le moment du déluge, c'était en réalité le don de la Torah. Qui n'a pas fonctionné à l'époque, et qui fonctionne maintenant. C'est-à-dire qu'en réalité, le déluge et le don de la Torah, c'est une seule et même chose. Ça ressemble réellement.
Le déluge, il est dans le système ?
Non. J'explique que d'après le conte, il y a un conte, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, où après tant et tant d'années, il est possible que le monde se soit encore une fois détruit. Et donc, comme les personnes qui étaient témoins de ce phénomène dans une autre période, eh bien aujourd'hui, elles ont pensé que la destruction du monde est encore une fois en train de se passer. Or, je suis en train de vous dire, ça ne prouve pas que c'était un moment où il y aurait pu avoir un déluge, c'est vrai aussi, mais ce qui prouve encore plus, Birchut Harav, c'est que le déluge était en réalité un don de Torah raté. Au moment du déluge, au moment de la génération du déluge, Akadosh Baruch Hu devait donner la Torah, elle devait arriver au monde, et étant donné que le monde n'était pas capable à cette époque-là de la recevoir, ça s'est transformé en déluge qu'on connaît aujourd'hui.
On dit qu'on recevra la Torah en l'an 3000.
Ken, ça c'est parce que il y a Tziva, Ken, les Elef d'or. Alors, une fois que le monde ne peut plus résister sans la Torah, parce qu'il est en train de mourir, Akadosh Baruch Hu fait évoluer son histoire. C'est-à-dire, l'histoire ne rate pas. Il y a des clés dans l'histoire, et après 2000 ans de Tohu Bohu, le moment est arrivé de donner la Torah. Si le monde est capable de recevoir cette Torah, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Israël, je refais marche arrière, entre guillemets, je ramène en fait le monde à quoi ? À Tohu Bohu. Donc, il y aura encore une autre tentative, je ne sais pas quand, je ne sais pas si, on ne sait pas. En tout cas, c'est la destruction du monde actuel. Et donc Israël se trouve dans une position d'obligation et de prise de conscience que c'est à ce moment-là que le monde commence réellement à recevoir sa Neshama. Et que si on refuse de recevoir l'âme du monde et donc son sens, eh bien, c'est comme si toute la création était en vain. Donc Israël reçoit cette Torah, et à partir de ce moment-là, on devient nous-mêmes les responsables de la lumière des nations, puisque cette lumière s'appelle Oraïta, donc Torah. C'est pas qu'on a reçu un bouquin, on n'a rien reçu. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas jeté des livres de son ciel immense sur notre tête. D'ailleurs, ce jour-là du don de la Torah, on n'a rien reçu physiquement. Les tables, c'est 40 jours plus tard. C'est le 17 Tammuz, les premières tables. Là, la fête que nous allons fêter, Shavuot, c'est juste qu'on a vu et on a entendu, c'est tout. On n'est pas rentré à la maison avec quelque chose en main. Mais on a compris que c'était un switch un moment où Akadosh Baruch Hu est en train de changer la structure du monde. Il est en train, en réalité, de faire injecter dans ce monde sa Neshama. Quel?
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si le peuple d'Israël n'est pas prêt à recevoir le Mashiach, Akadosh Baruch Hu peut encore faire marche arrière?
Encore une fois, il y a des, ce qu'on appelle, c'est difficile de parler avec des notions humaines, des valeurs divines. Parce que quand vous posez ces questions dans la manière dont tu les poses, ça veut dire, est-ce que Dieu fait quelque chose, après il regrette, il fait autre chose, machin. Chez lui, il n'y a pas de changement. Tous ces changements n'existent pas. Ces changements existent chez nous. Chez lui, c'est toujours la même chose. Je vais te dire plus que ça. Akadosh Baruch Hu donne toujours la Torah. Puisque tu le dis tous les matins, Baruch Ata Hashem noten la Torah. Alors comment se fait-il qu'on parle de la fête de Shavuot? Qu'est-ce qui s'est passé cette fête-là? Je suis en train de te dire que tous les jours, Dieu donne la Torah. C'est la première fois que nous étions capables d'entendre ce que Dieu dit tout le temps. Pourquoi on est arrivé à ce moment-là d'être capable? Parce que nous étions unis. Pour la première fois dans l'humanité, il y a eu une union. Ke'ish echad belev echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. Sous-entendu, si aujourd'hui on est capable de refaire la même chose, de retrouver notre amour au niveau de notre nation, de nous aimer les uns les autres, on est censé recevoir encore une fois et entendre encore une fois, être témoin encore une fois, puisque lui ne s'arrête jamais de dire la Torah. Vous êtes avec moi? Mais c'est la même chose. Au moment du déluge, c'est encore un moment où Dieu donnait la Torah puisqu'il la donne tout le temps. Mais à cette époque-là, comme les générations étaient tellement dégradées que ce que Dieu donne comme Torah s'est transformé en maboul tellement la génération était dégradée. C'est ça que ça veut dire. Et pour Pourim, c'est plus que lui a donné seulement, c'est que on a réellement accepté Kimou ve Kiblou. Mashekvar Kiblou, Arshav Kimou. Ça veut dire que nous avons pris conscience, nous sommes devenus adultes. C'est comme dans ta bar mitzvah. Tu es juif depuis ta naissance. Mais au moment de ta bar mitzvah, qu'est-ce que tu dis? Sans le dire. Je veux continuer à être ce que j'ai reçu au moment de ma naissance. C'est ce que tu dis aujourd'hui. Merci à Kadosh Baruch Hu, je veux jouer mon rôle d'homme d'Israël, alors que j'ai reçu ça comme cadeau à ma naissance. Mais c'est la même chose. À Pourim, nous sommes arrivés à une maturité, nous avons pris conscience de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous avait donné un petit peu de force là-bas, et maintenant on s'est dit, je veux. Merci de m'avoir forcé à recevoir à l'époque, parce que c'est exactement ce qu'il me faut, et aujourd'hui j'ai pris conscience de ça. Ken? Oui, c'est une très bonne question. Merci. Donc, Amesamelet Izun, donc cette force de Tif Eret, qui est le troisième mois, c'est ce qui garde l'équilibre. Nafshi ve'olami ben shtei trunot merkaziot b'chaim. Hanetina ve'akabala. Hayamin ve'asmol. Ha'elyonim ve'atachtonim. Le troisième mois vient nous indiquer quelque chose d'exceptionnel. C'est que il fait partie donc de cette sphère qu'on appelle la Tif Eret. Une splendeur, un équilibre, guérir le monde. Mais maintenant on voit qui guérit le monde, c'est la Torah. Eh bien, ce mois-ci, il fait le lien entre les extrêmes. La plus grande forme de mariage entre deux extrêmes, c'est le don de la Torah. Qu'est-ce que c'est que le don de la Torah? C'est relier le ciel infini et le monde de la création, on est d'accord. Mais je comprends que ce mois-ci, s'il est capable de faire le lien entre des extrémités aussi grandes, mais c'est qu'il est capable de faire le lien entre ceux qui pensent droite et ceux qui pensent gauche. Ceux qui sont dans le don, ceux qui sont dans la réception. Autrement dit, nous avons des forces en nous. Ma première force est celle de partager. Mais j'ai une force contradictoire. C'est celle de donner des limites. Combien je peux partager? Jusqu'à quand? Eh bien, le troisième mois, c'est ce qui fait l'équilibre entre ces deux degrés d'avant. Si je prends réellement ces trois mois maintenant, c'est Nissan, premier mois, Iyar, et maintenant Sivan. Donc, Nissan, c'était quoi sa force? De donner. Puisqu'Akadosh Baruch Hu vient nous prouver qu'il nous aime gratuitement. Même si nous étions dans un état lamentable, il nous sauve. Ça veut dire, je vous aime parce que vous êtes et non pas parce que vous faites. Nissan. Je passe à Iyar. Iyar, c'est quoi? C'est moi. C'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme rentre dans l'action et il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est gentil de m'avoir donné, mais maintenant je veux devenir, moi, associé à ce que tu m'as donné. Donc moi aussi, à partir de mes forces à moi que toi, l'Éternel, tu m'as donné, je vais te prouver que tu as bien fait de me choisir et de me libérer d'Égypte, puisque moi-même, je vais faire évoluer ta parole dans ce monde, mais cette fois-ci, ça vient d'en bas. Donc je suis un gibor, ça s'appelle la Gevura. Le premier mois, ça s'appelle du Chesed. Le deuxième mois, c'est de la Gevura, c'est le mois de Iyar, et nous lui avons prouvé. Nous avons, Baruch HaShem, fondé un état. Bien, tout ça, c'est dans un laps de temps pas très grand dans les mesures de l'univers. On a prouvé à Dieu que nous étions capables de faire Pessah Sheni, que nous avons été capables de faire Yom HaAtzmaut, que nous étions capables de faire Yom Yerushalayim, d'activer nos degrés d'homme. Le Homer, c'est la même chose, c'est un conte qui vient de moi. Troisième mois, mois de Sivan.
Dieu, c'est
celui de prendre.
Deuxième mois, c'est de reprendre.
Donner des limites, oui. Donner des limites aux choses. De savoir comment recevoir les choses. Troisième mois, l'équilibre. J'ai un petit peu du premier mois, j'ai un petit peu du deuxième mois, et j'ai en plus quelque chose du troisième mois. Ça veut dire que le troisième mois n'est pas seulement la somme des deux, mais encore plus haut. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce troisième mois? Vous avez compris. Je peux donner, je peux recevoir, et je peux trouver l'équilibre entre les deux. Donc, c'est un mois où je suis censé guérir de quoi? De toutes mes extrémités. C'est un mois où je peux être dans mon monde normal, dans un monde qui est équilibré, qui est sensé, qui a une direction, qui a un sens. Et la preuve, quand je suis dans cette position, eh bien, je suis capable d'entendre les valeurs de l'Éternel sous la forme du don de la Torah. Donc, Chag HaShavuot, c'est une fête où Akadosh Baruch Hu donne, mais il donne tout le temps. Mais c'est une fête où je suis censé, plus qu'à un autre moment dans le temps, je suis censé entendre. Ce que je suis en train de vous dire, ça vous pousse à grandir. C'est-à-dire que samedi soir prochain, vous allez sûrement étudier la nuit de la veillée de Shavuot, mais il y a deux possibilités. Ou vous étudiez comme vous étudiez le jour, seulement ça sera la nuit, encore une étude. Sympathique, on a déjà étudié, on va étudier encore un peu. Alors vous allez faire des petits travaux autos, des petits cours, des petits machins à droite à gauche. Ou bien vous vous dites non. Si le peuple d'Israël à cette époque était capable d'entendre la parole de Dieu directement, pourquoi pas moi aujourd'hui aussi? Et là tu montes de niveau. Et tu es censé entendre un autre degré de ce que tu as l'habitude. Ce n'est plus un cours. Tu ne vas pas pour étudier. Tu vas pour recevoir la Torah divine avec ses valeurs. Ça veut dire que tu es censé, le lendemain de Shavuot, d'être un autre homme. Il y a une nouvelle ère qui commence pour toi le lendemain. Comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Ce n'est pas encore une soirée d'études. Je suis complètement transformé, transcendé. Je viens de recevoir la lumière divine. Comment est-ce que je peux savoir si cette lumière est bonne ou pas? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre. Si tu es déséquilibré par la Torah, et on voit malheureusement des gens qui sont censés être équilibrés dans la Torah, mais tu les regardes, ils sont déséquilibrés. Dans tous les sens du terme. Il y a un problème. Si la Torah crée en toi un déséquilibre, c'est qu'elle n'est pas bonne. C'est que tu ne sais pas l'étudier ou l'appréhender comme il faut. Tu ne sais pas l'absorber comme il faut. Tu as un problème avec cette Torah. Donc change immédiatement. Tu es en danger. On va t'enfermer. Tu vas devenir fou. Si la Torah est bonne pour toi, elle a des conséquences. Tu deviens équilibré. Et donc l'équilibre que vous allez ressentir, la stabilité dans laquelle vous allez être, dans la Torah, c'est que cette Torah est bonne. La simcha, la joie que vous allez ressentir au moment où vous êtes rempli de Torah, prouve que votre Torah est saine. Si elle vous rend nerveux, si elle vous rend extrémiste, si elle vous rend obsessionnel, c'est qu'elle est dangereuse pour vous. D'accord ? Donc, Akadosh Baruch Hu nous met toutes ces informations dans le troisième mois. Ken ?
Comment ça se traduit, cette capacité d'écoute, que ce soit le Shavuot ? Est-ce que ça passe par cette passive ? Parce que vous avez parlé de pas forcément être actif à des Shavuotot au dépôt, mais est-ce que ça peut passer par la passivité de la lecture du Tikkun, par exemple ?
Ce n'est pas une passivité, c'est une ouverture de soi. C'est-à-dire, le tikkun de Shavuot, peu importe ce que tu fais, que ce soit l'étude ou le tikkun, la lecture du tikkun, okay, ça devrait ouvrir en toi tous les canaux de réception. Je vais parler de chushim, c'est-à-dire de sens. Nous avons 5 sens. Nos sens, à ce moment-là, devraient normalement devenir sains. Aujourd'hui, nos sens sont bouchés, altérés. On ne voit plus comme on devrait voir. On n'entend plus ce qu'on devrait entendre. On ne sent plus comme il faut. On ne goûte plus comme il faut. On ne sait plus toucher comme il faut. Eh bien, ces sens-là devraient s'ouvrir complètement. Tellement s'ouvrir que normalement, tu devrais arriver à quoi ? À ce que la Torah me dit, ce qui s'est passé à ce moment-là. Quoi ? Vekol ha'am Ro'im et akolot. Prouve-moi que tu es monté, que tous ces sens sont ouverts, c'est que tu es capable maintenant d'entendre ou de voir des sons. Pas d'entendre des sons, de voir des sons. Est-ce que tu es capable de faire ça? Mais pour faire ça, la Torah te donne une clé, mais il faut savoir la lire. Vekol ha'am. Si tu viens en tant qu'individu, tu ne pourras jamais rien entendre. Tu vas entendre ton petit cours, ça va te donner quelques petits chidushim. Le lendemain, tu vas les répéter. Peut-être un jour, tu écriras un livre, c'est tout. Je ne parle pas de ça. Je parle, est-ce que tu es monté cette nuit-là au degré de ta nation? Et je peux te garantir qu'un homme individuel qui monte cette nuit-là au degré de sa nation, il entend tout. Vous savez qu'il y a des récits concernant un groupe de sages d'Israël qui, le soir de Shavuot, ont entendu, à travers celui qui leur donnait le shiur, le son de la shrina. Rabbi Yosef Karo, alav shalom, s'est mentionné dans plusieurs livres, pendant 3 jours de suite, ça a commencé Shavuot, et ça a duré pendant 3 jours. Chaque nuit, à la même heure, il ouvrait sa bouche et on n'entendait plus sa voix. C'était la voix de la Shrina qui parlait et qui disait aux élèves, qu'est-ce qu'il leur disait ? Il est grand temps de monter en Israël. C'est bizarre, c'est toujours la même information qui vient d'en haut. Hein. C'est bizarre quand même. Mais bon, c'est encore des cours à part entière. Mais vous avez compris ? Ça veut dire pourquoi ? Parce qu'ils sont montés au niveau de la nation. Et quand tu montes au niveau de la nation d'Israël, qu'est-ce que tu entends en réalité ? Toujours le même message, l'Ech Lecha. Sous-entendu que Abraham, pour entendre son l'Ech Lecha, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il fasse ? Qu'il monte au degré qui dépasse sa personnalité propre. Et si moi aujourd'hui je suis capable de faire la même chose, moi aussi je devrais entendre l'Ech Lecha.
Comment on peut monter au niveau de la nation ?
Il y a fait. C'est que tu commences à comprendre que la Torah n'a pas été donnée à un homme. C'est que la Torah, elle est donnée au peuple. Jamais cette Torah est donnée à un homme individuellement parlant. Jamais les mitzvot ont été donnés à des hommes individuellement parlant. Même pas à un homme qui est venu me dire après, oui, on m'a dit que. Non. T'as quelque chose à me dire? Dis-le devant tout le monde. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. À contraire de toutes les religions, où on te raconte qu'un type, peu importe comment il s'appelle maintenant, a entendu des voix, et après il est venu me répéter. Peut-être qu'il est fou le mec. Toujours, toujours au niveau de la nation. Anochi Adonai Elohecha Asher Hotseticha Me'eretz Mitzrayim. Quand Akadosh Baruch Hu te dit la première parole, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Qui l'a fait sortir d'Égypte? La nation tout entière. Tu vis au sein de cette nation. Tu es venu vivre en Israël pour être au niveau de cette nation. Si tu fais ça dans chaque instant de ta vie, eh bien tu peux ouvrir en toi tous les canaux. Et ça répond à la question du Rav. Si tu ouvres tous tes canaux, tu es censé entendre des choses que la plupart des gens n'entendent pas. Et d'ailleurs, le Zohar HaKadosh pose une question très simple. À qui Dieu a dit « Lech Lecha » Réponse ? À tout le monde. Pas Abraham. Pas Abraham ! Alors comment se fait-il que Abraham, la Torah nous dit « Vayomer Hashem el Abraham, Lech Lecha » Mais tout simplement que lui était capable à ce moment-là de monter au niveau d'entendre. Mais si tu le fais, tu vas entendre toi aussi. C'est ça le secret. Donc, il faut arriver à un équilibre. Nous sommes dans le mois de l'équilibre. Pour être équilibré, il faut être où? À droite? À gauche? Au centre. Au centre. C'est une règle. Le centre, c'est là où l'Éternel se dévoile. Donc, « Mishechay et achodesh umea keletz gulotav » Si tu vis ce mois à son véritable niveau, eh bien, tu auras la bénédiction de voir tous ces liens et tu retrouveras ton équilibre naturel. Alors tout ça, c'est quand on a dit que le troisième mois était le troisième mois. 1, 2, 3. Mais là, regardez ce que les sages vont nous dire. Chazal mechanim et achodesh hazeh beshabbat peichet. Les sages ne vont pas s'arrêter là. C'est ça la force de la Torah, c'est extraordinaire, ça n'est jamais fini, c'est toujours on t'étonne. Les sages nous disent, mais tu sais comment il s'appelle ce mois? C'est pas le troisième mois. C'est le mois triangulaire. Oh là là. Alors jusqu'à maintenant, tu pensais qu'il était placé à la troisième place. Nissan, Iyar, Sivan. Maintenant, j'ai un chidouche pour toi. On appelle ce mois, qui n'est pas seulement à la troisième place, mais qui lui-même a une forme de triangle. Yarchatelitaï, voilà l'expression de nos sages en araméen, le mois, Yareach, Telitaï, triangulaire. Et au passage, on te rappelle juste qu'il y a deux autres données qui sont appelées comme ça, qui sont triangles, elles aussi, ces données-là. Lesquelles ? Israël s'appelle le peuple triangle. Léatla, tu vas comprendre. Et la Torah, qui elle-même est triangulaire. Et donc la Gemara, les sages dans la Gemara vont nous dire, nous avons ici, on fait face à trois triangles. Un triangle qui est temporel, Sivan, c'est un triangle. La Torah est un triangle, puisqu'elle est faite de trois parties, Torah, Nevi'im et Ketubim. Et le peuple d'Israël est un triangle lui aussi, puisqu'il y a Cohen, Lévi et Israël. Et là-bas, la Torah et la Gemara va développer, elle ne va pas s'arrêter. Hein. Elle va dire que ça a été donné aussi à un fils qui est triangulaire, Moshe. Pas seulement qu'il est le troisième après Aaron et Myriam, comme le mois de Sivan après Nissan et Iyar. Non, lui-même Moshe est triangulaire. Ça veut dire que tu vois un triangle marcher. Et qui a été donné au troisième jour, puisqu'il y a marqué « Soyez prêts au troisième jour », avant le don de la Torah. Non, non seulement on est dans le troisième mois, mais trois jours avant, on marque le troisième jour. Ça veut dire que le troisième jour, c'est un triangle. Donc le 6 Sivan, le jour où on entend la Torah, c'est un triangle. et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire, d'un coup, tu t'aperçois que la Gemara, là-bas, dans le traité de Shabbat 85, elle te parle de triangle sans arrêt. C'est une rencontre du troisième type. Tout est triangulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette donnée ? Maintenant, tu commences à comprendre qu'en réalité, il s'agit d'une forme géométrique, si tu devais lui donner une forme dans ce monde, un triangle, mais que toutes les notions d'Akadosh Baruch Hu et de ce monde, c'est triangulaire. Alors, est-ce que vous savez, peut-être dans votre monde à vous, de science ou d'autre chose, quelle est la caractéristique du triangle ? Qu'est-ce que c'est que le triangle ? Hein ? Il relie tous les côtés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le triangle en réalité en mathématiques ? C'est quoi le secret du triangle ? Il y a une base. Vous comprenez d'abord que c'est un triangle dont les trois côtés sont égaux. Donc, qu'est-ce que ça forme en réalité ? Un cercle. On est d'accord ? Ben oui. C'est avec le triangle que tu peux... D'accord ? C'est des mathématiques, c'est de la géométrie. Ça veut dire qu'en réalité, pour arriver au monde de la nature, qui ressemble à quoi ? À un cercle, puisqu'on l'appelle Teva, Tabarat. Eh bien, qu'est-ce que je peux rentrer à l'intérieur ? Un triangle. Oh là là, ça commence à devenir intéressant là. Ça veut dire qu'en réalité, on peut tout rentrer dans ce cercle. Mais qu'est-ce qui remplit ce cercle avec l'âme de ce cercle ? Un triangle. Donc si j'appelle la Torah un triangle, c'est que une forme triangulaire est descendue dans le monde le jour du don de la Torah. Et cette forme triangulaire, elle prend la forme, dans notre tête à nous, de la Torah. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on n'a rien reçu. C'était juste des paroles. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu nous a parlé, il nous a parlé sous forme de triangle qui descend dans ce monde. Qu'est-ce que c'est un cercle ? Le cercle représente en fait le monde dans lequel nous sommes, qui est comme une bague, où tu peux en réalité te perdre. Si tu n'as pas un sens intérieur dans le cercle, c'est un jeu ou quoi ? Il a un problème le pilote là ? Ça, c'est des canadaires, il doit y avoir des feux. Oui, mais c'est peut-être des canadaires. Donc, peut-être qu'il y a un feu. Ça représente le monde de la nature dans lequel maintenant je dois donner un sens à sa nature. Donc qu'est-ce qui donne un sens au cercle ? Le triangle. Dans notre cours, la Torah. La Torah va donner un sens au cercle, au monde circulaire. Alors maintenant, comment est-ce que moi je peux comprendre qu'est-ce que c'est que le triangle ? Et maintenant je vous... J'ouvre une caméra supplémentaire qui vient de la Kabbale, qui nous dit, quand on parle d'un monde de réparation, ce qu'on appelle Olam HaTikun, c'est toujours 3. Le côté gauche, le côté droit et la centralité. Tout le temps c'est comme ça. Donc je suis obligé maintenant de trouver aussi un temps dans le temps qui soit triangulaire. Alors, quel est le temps, à part le mois de Sivan, qui est un temps triangulaire, dans un mois triangulaire, quel est le jour qui va correspondre à ça ? Le Shabbat. Et c'est pour ça que Shabbat, il est triangulaire aussi. Seouda Rishona, Seouda Shnia, Seouda Shlishi. La Torah a été donnée quel jour dans la semaine ? Un Shabbat. Ben, vadaï. La Torah fut donnée un Shabbat. Et tous les chachamim sont d'accord avec ça. Les choule alma nitna Torah beShabbat. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, dans la même Gemara. Ça veut dire que j'ai maintenant un ensemble de triangles. Ça ne s'arrête plus. Et je peux continuer encore. Ça veut dire que j'ai un triangle temporel. J'ai un triangle au niveau de la forme physique. Qu'est-ce que c'est que le Mont Sinaï ? Un triangle. J'ai un triangle au niveau du moi, troisième moi. J'ai un triangle au niveau de l'homme qui était intermédiaire, Moshe Rabbeinu. J'ai un triangle au niveau. Mais ça ne s'arrête plus. Sur le troisième fils, je l'ai dit tout à l'heure. Myriam, Aaron, Moshe. Et en plus de ça, il a une structure intérieure qui lui donne cette capacité aussi d'être un triangle. Laquelle? Qu'est-ce qu'il est, Moshe? Il est prophète. Qu'est-ce qu'il est encore? Cohen et roi. Incroyable! Ça veut dire que ce triangle-là, et je ne veux pas allonger le sujet, mais vous avez compris qu'il s'agit ici d'un secret, d'un grand secret. Donc lorsque la Gemara vient me dire, attention, la Torah est obligée d'être un triangle qui descend sur terre. Donc lorsque Dieu, entre guillemets, descend, pose ses pieds sur terre, il est obligé de déposer en triangle. Pessah, Shavuot, Sukkot. Comment on les appelle? Shlosha, Regalim, les trois pieds. Donc un trépied. Shalosh, Regalim, Raglaim. Ça devient fou. Donc en réalité, il s'agit ici d'un tétrapode. Okay? Un Spoutnik à trois pieds. Dieu se dépose sur terre, sur l'équilibre le plus parfait qui soit. Et demandez à n'importe quel géomètre, mathématicien, quelle est la structure dans ce monde qui est la plus équilibrée? Le triangle. Une chaise à trois pieds est plus stable qu'une chaise à quatre pieds. Les gens ne savent pas ça. Donc je suis en train de vous dire que le don de la Torah, c'est le don de quoi? De la stabilité par définition au monde. Donc le monde manquait de quoi? De stabilité. Et si le monde n'avait pas reçu cette stabilité, il serait revenu à quoi? Tohu vavohu. C'est-à-dire un manque d'ordre. Donc l'ordre en hébreu, il est obligé d'être écrit en combien de lettres? Trois. C'est der. C'est obligé. En français, c'est O, R, D, E. Il y a déjà quatre. R, cinq. Trois. C'est der. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant? Je suis en train de vous dire quelque chose maintenant qui va vous toucher au niveau personnel. Toi, tu fais partie du quoi? De l'humanité. Comment on dit l'humanité? Adam, trois lettres. Tu es un homme, Ish, trois lettres. Athlète. Hein? Bien fait. C'est pour ça que tu dois, ces trois lettres, ils sont le Yud. Ken, il faut que tu comprennes qu'en réalité, tu es un triangle. Et si tu n'as pas d'ordre dans ta vie, qui est le Shabbat, Shabbat c'est l'ordre de la vie, donc tu n'as pas de Torah, donc tu n'as pas de triangle dans ta vie, tu es un cercle sans sens. Tu es une bague qui n'a pas de doigt. Donc tu ne peux pas te fiancer.
Pour reprendre ce que vous avez dit, quand c'est qu'on n'a pas de sens?
Mais quand tu n'as pas un triangle qui va rentrer dans le cercle de la vie.
Et le triangle, c'est à la Torah, et c'est quoi les autres côtés?
La Torah, le temps et l'être. Mais l'espace, tout, tous les éléments sont triangulaires. Regardez vos membres du corps. Combien de prakim, de phalanges vous avez? Trois. Un, deux, trois. C'est bizarre. C'est ce doigt-là que la femme va donner pour la bague. Elle ne va pas donner le pouce. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'en a que deux. Oh, c'est pour ça qu'on dit pouce. Là, ça s'arrête. Il y a un autre problème. C'est un autre programme. C'est un autre livre. C'est un autre film. Et c'est pour ça que pour l'instant, chaque fois que vous faites quelque chose, vous cachez le pouce. Quand vous faites Tachanoun, il faut rentrer le pouce. Quand vous faites la Havdalah, il faut rentrer le pouce. Vous saviez ça? Pourquoi? Parce que pour l'instant, le pouce n'est pas encore dévoilé.
Il sera dévoilé quand?
À la fin des temps. Be'ezrat Hashem. Et c'est pour ça qu'on appelle Bo Hen. C'est-à-dire Hen? Oui. C'est-à-dire, au moment de la fin des temps, tu vas révéler le oui. Comme Ko Hen, Bo Hen. Tu entends? Alors aujourd'hui, il n'a que deux phalanges. Alors on le met de côté. On le cache. Pas parce qu'il est petit. Parce qu'il est le plus... Le plus kadosh, le plus grand. Mais il est caché. Alors cache-le pour l'instant. À la fin des temps, tu vas faire comme ça. Pour l'instant, tu envoies ça juste à tes copains, Zama. Okay. D'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu ne lui fais pas comme ça? Et si tu fais le reste, alors je te dis même pas. Okay. Il y a un sens à tout ça. Donc, moralité, vous avez combien de phalanges en tout ici? 14. 14, c'est Yad. C'est la main. Yud, Dalet. Donc les 14 phalanges, c'est en réalité les 14 degrés. Donc à chaque fois que je parle, regardez. 1, 2, 3. Tout est 3, 3, 3, 3, 3. À chaque fois que vous rencontrez 2, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, mais c'est encore un cours à part entière.
Et vous, on rencontre 1 aussi dans le...
Ça, c'est l'unité. Mais l'unité 1, comme tu l'appelles 1, elle est formée de quoi? De 3. Par exemple, l'unité, la lettre Aleph, c'est l'unité. Combien de lettres écrivent la lettre Aleph? 3. Un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav au milieu.
Et le cœur, on n'en a qu'un et...
Non, on n'en a pas qu'un. On a déjà 2. Ben oui. Il y a un ventricule droit, ventricule gauche. Dans le cœur. C'est marqué comme ça. Et c'est pour ça que dans le Kriyat Shema, tu dis Bechol Levavecha, Pal Bechol Libecha. Et c'est pour ça que je t'ai dit que ce deux-là correspond à un secret, puisqu'Israël est le cœur des nations du monde, à la fin des temps sera révélé le cœur. Comme Yerushalayim qui est le cœur de la terre d'Israël. Je reviens à ce qu'on est en train de développer. Nous rentrons aujourd'hui, maintenant, premier jour de Rosh Chodesh, Sivan, dans un mois triangulaire. Ça veut dire que vous allez voir maintenant des triangles partout. Faites attention, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie du programme. Et d'ailleurs, vous devez découvrir. Il y a un jeu. Cherche le triangle. Cherche le triangle. Dans tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que trouve le triangle dans tout. Ta journée, elle est faite de quoi? Shacharit, Mincha, Arvit. C'est un triangle. Kriyat Shema, Shema, Shema. Shacharit, Mincha, Arvit. Shema. Oh. Oh. Ça commence à faire beaucoup. Ol Malchut Shamaim. Shema, à l'envers.
Vous savez qu'il y a les trois religions qui sont dans le...
Les trois religions? Lesquelles sont les trois religions? Dis-moi.
Pas religion, mais il y a l'hôtel, la mosquée, le...
Ah, l'église, non, je sais pas, moi je ne connais que deux là-bas. Le judaïsme, ce n'est pas une religion.
Non, c'est une religion.
D'accord. Ouais. La même. La même chose. C'est pour ça que tu fais les nœuds sur le doigt qui sont au nombre de 3. Et vous allez commencer à voir maintenant un petit peu partout. Les gens vont vous dire qu'est-ce qui s'est passé. On était à un cours de Yoel. Il nous a rendu la tête triangulaire. Je suis rentré, je marchais comme ça. Je suis devenu Meshoulash. Meshoulash veut dire un triangle. D'accord? Meshoulash. Chaloche. Et d'ailleurs, si je commence à jouer avec le triangle, je vais arriver à quoi? À la femme et à l'homme. Puisque l'homme, c'est quoi? C'est un triangle dont la pointe est vers le bas. Et il est large. Et la femme, c'est l'inverse. Elle est fine en haut et elle s'élargit au niveau de ses hanches. Et les deux ensemble, c'est un Magen David. Donc c'est deux triangles mélangés. Ouh là là, mais ça commence à faire beaucoup là. Et si tu commences à rentrer dans tous ces secrets, tu t'aperçois qu'en réalité, le don de la Torah n'a pas été donné le troisième mois. Mais la Torah elle-même est un triangle qui est descendu sur terre. Alors pour les gens qui sont amateurs d'OVNI, il y a eu un élément à 3 dimensions qui est descendu sur terre. Et d'ailleurs, nous avons 3 dimensions. Le X, le Y et le Z. C'est-à-dire le point dans l'espace. C'est-à-dire les 3D. Et aujourd'hui, quand il y a un 3D, tu kiffes, non?
Il y a 4D aussi.
Nahon, mais c'est la quatrième dimension, c'est encore un autre degré qui déjà développe le 3D. C'est-à-dire donc, Ubamenikar Kochoshe la Meshulash Shel Chodesh Sivan. Comment est-ce que je comprends ce triangle du mois de Sivan? Beouvda She Ofi Azman Hashayach Lomechil Bekirbo et Gam Ofiam Sheshna Chodeshim. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, le mois de Sivan contient trois mois. Sivan lui-même, Nissan et Iyar, qui lui ont précédé. Donc c'est un mois dans lequel il y a trois mois. Donc en réalité, il y a trois mois en un. Trois en un. Donc le mois de Sivan est un mois lui-même qui contient la totalité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette totalité? C'est la totalité de l'histoire juive. Vous savez ça. Parce que Nissan, c'est le début des temps. Iyar, c'est la fin des temps. Et Sivan, c'est le don de la lumière divine qui me permet de faire le lien entre les débuts des temps et la fin des temps. Qu'est-ce que c'est le début des temps? La Gemara nous dit que le monde fut créé à Nissan. Pourquoi? Parce qu'elle considère que le monde a commencé quand? Non, Nissan. Quand on est sorti d'Égypte. Et que le véritable peuple qui a trouvé ce degré-là, c'est le peuple d'Israël, qui lui-même est triangulaire, donc c'est l'ustensile capable de recevoir la lumière. Comment on dit un ustensile? Keli, donc Cohen, Lévi, Israël. Donc nous sommes encore un triangle. Trois lettres, c'est un Kli qui reçoit la lumière de la Torah. Il n'y a pas d'autre Keli. C'est bizarre. Et tous ceux qui ont ce Keli ont la grâce. C'est un jeu de mots, c'est pas grave. Klomar, chez Trunato Amuka chez Lazman, mais Afcheret Lo Misheshet Yeme Bereshit, ça veut dire que tous ceux qui ont cette qualité en eux, donc développer le triangle en vous, ça va, c'est bon, tu as compris à peu près 50 secondes après le truc, tu as une mèche un peu longue, c'est pas grave, ça marche aussi. C'est ce qu'on appelle des pétards à mèche. Il y a des mèches longues et des mèches courtes. L'essentiel, c'est que ça rentre. Les taver ben erke amuchlat ou ben abria. Donc maintenant, vous comprenez qu'il y a ici un lien, un mariage entre ces deux degrés. Les degrés qui sont extrêmes, le ciel et la terre. Donc il y a un troisième élément qui fait le lien entre les deux autres. Donc pour entendre la parole divine, combien d'éléments il me faut? Trois. Vous pouvez me les raconter, par exemple? Ça, c'est la Torah. Mais comment est-ce que je vois qu'il y a trois éléments?
Israël, Torah, Shabbat.
Oui, mais comment est-ce que... Donne-moi une preuve que j'entends, qu'on peut entendre la parole de Dieu à travers un triangle. Mais c'est marqué dans la Torah que la parole de Dieu sortait entre les deux chérubins. Donc, il y a un chérubin, un autre chérubin et la voix au milieu. Donc, trois. Maintenant, tu comprends pourquoi, quand tu te maries, combien vous êtes? Il y a le Khatan, la Kala, et le lien entre les deux qui représente Akadosh Baruch Hu, ou le rabbin aujourd'hui. Normalement, tu n'aurais pas eu besoin de lui. Mais ça forme un triangle. Tu es obligé de passer par ce triangle. Et s'il n'y a pas ce triangle, il y a un problème. Combien d'associés il y a dans ta création à toi? Trois. Shlosha Shutafim, bah Adam. Al. Shlosha, Dvarim, Ha'olam, Omed. Le monde tient sur trois choses. Ouh là là, ça commence à faire beaucoup maintenant. Je vous ai dit, vous allez commencer à voir ça de partout. Dès que vous allez rencontrer un 3, je vais avoir les oreilles qui sifflent. C'est ça le Inyan. Et tu vas rentrer un petit peu plus profond. Ton œil, il y a combien de parties? 3. Tu as le blanc, tu as la couleur et tu as l'iris. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Tu veux que je continue? Il y en a partout, de partout. C'est comme ça que ça marche. La lettre, par définition, la première lettre de toutes les lettres, celle avec laquelle on commence tout, c'est un yud, c'est un point. C'est faux. Il a trois parties. Il a la pointe du yud, il y a la queue du yud et il y a le yud. Et chaque jour, et chaque degré, et chaque élément, et chaque espace, et chaque être est composé de ce trois-là. Et c'est seulement en étant trois que tu peux comprendre et entendre cette unité. Donc quand Dieu parle un, moi j'entends deux. Donc on est en tour trois. Achat diber Elohim, shtaim zushamati, un plus deux, trois. J'ai fermé le cercle, je peux entendre.
Pourquoi ils sont où les deux?
Hein? Tes deux oreilles, par exemple. Si tu entends un cours, tu l'entends avec deux sens, au minimum. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir une chavruta. Parce que si tu te développes tout seul, c'est comme si tu l'avais entendu qu'une seule oreille. Donc tu l'as retenu en mono. Mono, ça ne va pas. Tu es obligé d'être en stéréo. Donc tu ne peux pas entendre quoi que ce soit avec un seul sens compréhensible de la chose. Parce que tu l'es dans l'un des sens. C'est pas beau. Être dans l'indécence, c'est pas beau. C'est indécent. Donc, quand tu entends quelque chose, il faut que tu sois dans les deux formes, dans les deux écoutes. Donc, tu es obligé d'écouter en stéréophonie. Donc, combien de cerveaux nous avons? Trois. Eh bien oui. Troisième cerveau, il est là, ne l'oubliez pas. Sinon, tu ne peux pas. Il y a combien de sphères? On passe un petit peu au niveau Kabbalah, juste pour vous montrer que c'est pareil. Il y a combien de sphères supérieures en haut? Trois. C'est tout. Qui nourrissent tous les autres en bas. On les appelle Gimel Rishonot, les trois premières. Comprenez maintenant tout ça, tout ce triangle-là? C'est sans arrêt. Sans arrêt. Et donc, si j'arrive à faire tout ça, okay, qu'est-ce que tu dis?
Trois avot.
Trois avot. Okay. C'est la base, la matrice de tout. La patrice. Parce que la matrice, c'est déjà quatre. Arba imaot. Shlosha avot. D'accord? Bon, ça n'existe pas, hein, mais bon, j'invente des mots, c'est pas grave. Vous avez compris. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Torah est obligatoirement donnée ou reçue, perceptible, quand? Le mois de Sivan. C'est tout. Donc en réalité, tu es obligé de sortir ce mois-ci au moins 6 vannes. 2 x 3. Sinon, ça ne va pas. Parce que c'est le mois où toutes les vannes sont ouvertes. Sinon, le flux divin ne circule pas. Donc ouvre tes vannes. Tu comprends? Alors le 6, Sivan, je ne te dis même pas. Par exemple. Donc il faut que je fasse un travail intérieur en moi-même pour arriver au niveau de ce triangle-là. Il y a un plus, un moins et une résistance. Regarde les trous qui sont juste à côté de toi. 3 et 3. Ça commence à faire peur. De partout tu vas les voir. Ils sont 3. Ils me poursuivent. Comprenez que c'est le secret même du monde du Tikkun, on appelle ça Gimel Kavim. Gimel Kavim, c'est le monde du Tikkun. On va réparer ce monde, Be'ezrat Hashem. Combien, généralement, c'est la racine de toutes les lettres hébraïques? 3 lettres. Comment tu écris Aleph? Aleph. Comment tu écris Bet? Bet, Yud, Taf. Comment tu écris Gimel? Gimel, Mem, Lamed. Même la racine est composée de 3. Ça, c'est le monde du Tikkun. Ça veut dire qu'on va réparer le monde grâce au triangle. La Torah triangulaire est la réparatrice du monde. Rencontre du troisième type, on arrive avec notre triangle et on répare tout. Développez ce triangle en vous, cherchez-le. Découvrez tout ce qui est triangulaire dans votre vie. Vous allez comprendre des secrets énormes sur toute la vie. Sur le monde entier. C'est obligé d'être des multiples de 3. Ça peut être ou 2 fois 3. Donc le 6 Sivan. Vous comprenez comment ça marche? C'est toujours avec le 3. Le 3, c'est un degré d'équilibre. Et c'est pour ça que le mardi, le troisième jour dans la semaine, c'est le seul qui a reçu 2 fois le mot Tov. Pa'amaim ki Tov. Parce que c'est le troisième. Et le troisième, c'est l'équilibre, qui correspond à Yaakov. qui est devenu Israël. On va s'occuper que du troisième, c'est bizarre. Avraham et Yitzhak, bon, ça va, ils ont donné, mais on va s'occuper de Yaakov, c'est Yaakov, le troisième, qui va devenir Israël. Et Israël, c'est Yachar. Trois lettres. Vers. Vers. El. El, c'est vers. Tu es obligé d'être trois. Roche. Trois lettres. C'est bien, vous avez des questions ? En trois lettres. Quel ?
Qu'en est-il de la Madaga du 4, par exemple, la Merkava, on dit qu'elle
a 4. Merci. J'ai dit, donc, c'est un cours à part entière, mais juste pour te répondre, et on termine le cours avec ça, le quatrième, c'est la révélation. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, la Malchut. Donc, il y a trois degrés de don, et le quatrième degré, qui est en réalité le Kli Kiboul. Donc, il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. C'est les initiales de Iya. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Rachel, c'est la Malchut. C'est la Malchut. C'est Rachel, c'est celle qui contient en réalité les trois. C'est comme un clic qui boule, comme un ustensile de réception des trois degrés qui lui ont précédé. Donc, travaillez sur ce trois-là. Et Bezrat Hashem, essayez de trouver le triangle pendant Chag HaShavuot. Si vous avez des Chidushim, je suis preneur. Toda Rabba.